dangereux.
On va efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Dieu de merde.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sûr Radio Canus, 102.2 MHz, c'est la plus rebelle des radios, et c'est Cannabis Circus, comme tous les lundis soirs, de 21h à 22h, à 22h, on est à l'heure, et quoi d'autre? On est le 29?
Le 29 avril, on est.
Bientôt le 1er mai, oui. Après-demain, on se croisera à la manif, j'espère. Réveillez-vous, c'est à Garibaldi cette année.
Le départ ?
Ouais.
D'accord.
Voilà, bon, ça c'est pour les infos au passage. Quoi d'autre ?
Eh ben, plein de choses encore aujourd'hui dans Cannabis Circus.
Voilà, on va vous parler
De la Canaparade.
Canaparade, à Paris, qui arrive 25 mai, c'est pas encore passé. Préparez-vous, vous pouvez monter à Paris pour ça. On va vous parler de Libération avec un hommage à
Valère Rogissard. Comment tu ne connais pas Valère Rogissard, Jacques?
Valère Rogissard. Non, je connais pas beaucoup Valère Rogissard. J'ai découvert son parcours très intéressant par aide, par beaucoup de travail sur la réduction des risques avec fiction propre. Voilà, il a beaucoup travaillé. Grand hommage.
C'est juste de lui rendre hommage. C'est vraiment par justice, quoi.
Ah, mais on en a déjà eu beaucoup.
Ah non, mais lui, c'est un monument quand même.
D'accord. Voilà, j'étais passé à côté de lui.
Voilà.
Comme beaucoup d'autres, mais on va revenir parce que je pense que c'était quelqu'un d'une grande qualité en effet, de toute manière.
Bon, on lui doit beaucoup. Enfin, la réduction des risques en France, lui doit énormément.
Voilà. Après, on va revenir sur l'Allemagne et la mise en œuvre
de la réforme. Alors bon, c'est un article qu'on a traité la semaine dernière. Alors, je te propose qu'on le garde en référence, qu'on traite celui d'après.
Voilà, qui est l'Europe...
Est-elle le géant endormi de la réforme mondiale du cannabis?
Voilà, on tout à fait. Ça. Et puis, on viendra au Maroc. Ah voilà, avec 236 tonnes légales. C'est quoi? C'est un 20e de ce qu'ils produisent en illégal, hein, c'est ça?
Bah écoute.
Si je me trompe pas.
Non, mais ils ont une agence nationale de réglementation. Voilà, on va parler de tout ça et ils avancent vite.
On va voir aussi ce qui se passe chez nos amis belges qui eux aussi commencent à mettre un petit coup d'accélérateur. On ira revoir le Canada avec le Manitoba.
Manitoba, oui.
Qui est le dernier État qui va permettre la culture, le dernier État canadien qui va permettre la culture du cannabis en intérieur. Avant, évidemment, le Québec. Mais ça, le Québec, c'est
un peu la
c'est
France.
Les francophones, hein. On est toujours un peu cons.
Enfin, en tout cas,
voilà, on peut se mettre des claques de temps en temps. Voilà. Ensuite, on a quoi d'autre?
Aux États-Unis, la génération Z qui consomme de moins en moins d'alcool et qui préfère plutôt le cannabis et des boissons non alcoolisées.
Voilà, ouais, et plein de petites pastilles bleu, rouge, vert, jaune. Bref. Mais ça, ils en parlent pas dans l'article, mais bon.
Bah non, je sais pas d'où tu sors ça.
Bah, je sais pas.
De ta tête, d'accord. Le Paraguay. Ensuite, qui discute d'une possible réglementation du cannabis médical, mais aussi industriel et récréatif, et peut-être que des changements sont peut-être à venir, on va voir.
Voilà, parce qu'ils veulent faire le cannabis un moteur du développement quand même, ouais, au Paraguay.
C'est ambitieux, c'est bien.
Mais c'est une très bonne idée.
Et puis, pour finir, deux articles, je ne sais pas si on aura le temps, en tout cas, un article « Pourquoi les Européens mélangent-ils le cannabis au tabac ?» On va voir d'où ça vient, parce qu'effectivement, voilà, ça ne va pas de soi partout. C'est pas comme ça forcément qu'on le consomme partout.
Très bien, tout à fait. Et c'est assez rare. Et en plus, l'analyse est très bien faite. J'ai bien aimé. Donc, on essaiera d'y arriver dessus.
On devrait.
Et on finira aussi sur les Grecs et les Romains. Alors, je sais pas si on aura le temps.
Ouais, bon, l'article.
Entre les drogues et le plaisir, depuis quand? Et puis, ils oublient l'alcool dans leur drogue. Donc, chez les Grecs et les Romains, ça faisait quand même une grande partie. Avec,
oui, peut-être que là, justement, ils ont voulu parler de ça sans parler du vin. Je pense que c'est fait exprès.
Bah ouais, mais ça manque quand même parce que ça fait partie des drogues, quoi. Drogue légale, illégale, parce que quelque chose est illégal n'est plus une drogue. Est-ce que c'est n'importe quoi? C'est faut arrêter de rester dans ces clichés, dans cette façon de voir les choses. Quoi.
Oui, mais je pense que là c'était pas l'objet, c'est fait exprès.
Voilà. Ouais, mais bon, voilà. Mais en tout cas, ça m'a manqué. Entre j'ai pas retrouvé ni Dionysos ni Bacchus. Ni le vin, quand même,
voilà,
qui fait partie de notre culture européenne, qu'on le veuille ou non.
Si tu veux, je sais pas.
C'est pas que je le veuille ou pas, que je le veuille, ça fait.
En tout cas, là, je pense que
c'est comme
article,
on a des racines chrétiennes, qu'on le veuille ou pas.
Encore
quoi,
une fois, dans cet article, je pense que c'est fait exprès, ils ont pas voulu parler de ça.
Ouais.
Voilà, donc c'est pourquoi pas. Ouais, allez. Voilà, allez, on commence.
Allez, vive l'athéisme quand même.
Avant de. Vive quoi?
Vive l'athéisme.
Quel rapport?
Juste pour le plaisir.
Bon, d'accord. Alors, bon, nous allons donc commencer par parler un peu de Cana Parade. La Cana Parade 2024 qui va se dérouler le samedi 25 mai. Voilà, avec un communiqué du cirque au milieu, là. Alors, bon, si vous voulez retrouver toutes les infos un peu pratico-pratiques, mieux que de nous écouter attentivement, je ne peux que vous recommander de vous rendre ou sur la page Facebook du Cirque ou du Cirque Lyon ou carrément sur le site internet du Cirque et là vous retrouverez toutes les infos pratiques pour participer à la Cana Parade. Bon, bah, je vais quand même vous les donner. Hein. Ça démarre à partir de 13h30.
Précise. Place de la République.
Donc voilà, même vous pouvez venir une demi-heure avant. Voilà, à partir de 13h. Donc c'est là que tout commencera et l'arrivée devrait
elle est prévue à 16h20.
Voilà.
16h20 pétante hein, parce que
place de la Bastille
en hommage au 420 à la Bastille.
À la Bastille.
Voilà. Donc là-dedans j'ai pas appris grand-chose mais il y a deux trois petites choses quand même voilà sur la croisade de notre garde des Sceaux et de notre ministre de l'Intérieur. Bon là-dessus ils sont unis sur cette connerie-là. Comme quoi, voilà. Et donc c'est surtout parce que c'est sur les jeunes hein, qu'il faut faire attention. N'empêche que l'âge moyen des usagers en France est de 32,8 ans. Donc c'est d'après une enquête qui date de 2021. Les choses ont du mal à ressortir, mais néanmoins c'est intéressant d'apprendre ça.
Donc plutôt une population, je dirais pas vieillissante, mais
Elle n'est pas que jeune.
Voilà, exactement. Parce que 32,8 voilà, c'est surtout ans, ça veut c'est... dire qu'il y a pas mal de consommateurs qui ont plus de la cinquantaine.
Quand on est jeune, quand on est ado, même si c'est pas le moment, même faut essayer les produits stupéfiants plus tard et après l'adolescence et plutôt après la majorité, voilà, la surmajorité, puisque c'est plutôt au-dessus de 20, 21 ans que le cerveau est vraiment fini et que on peut user sans abuser de produits stupéfiants, dont l'alcool, donc, voilà, et tutti quanti. Toutes ces recommandations d'usage étant faites, où je voulais en venir, je ne sais pas.
Donc moi, je vais continuer. Donc il est prévu un défilé en fanfare, en fait. Il va y avoir 4 chars. Il y aura bien évidemment le char du cirque, qu'on apparemment nous ne pourrons pas rater. Il y aura également une scène sur un camion de 19 tonnes. Des artistes, apparemment, Tomahawk, mais aussi Billy the Kick, qui va participer à cette Cana Parade, ce qui est sympa de leur part. Ça fait un petit moment que, enfin, en tout cas, moi, je n'entendais plus trop parler d'eux. On passe régulièrement des morceaux de Billy the Kick dans l'émission.
Ça va se faire plaisir.
Et on va peut-être même. Oui, je sens qu'il est parti pour nous en mettre un pour tout à l'heure. On nous annonce également la présence exceptionnelle de notre ami et camarade Jean-Pierre Galland qui sera donc présent pour cette Cana Parade Et nous, on en profite pour saluer toute l'équipe du cirque et notamment toute la petite équipe qui se retrouve du côté de Poitiers, qui une fois de plus nous aide hein, comme tous les lundis à faire cette émission et qui nous aide aussi à vous parler de la Canne à Parade. Donc rendez-vous sur la page Facebook du cirque, du Cirque Lyon, le site internet du cirque, vous retrouverez toutes les informations et le petit communiqué qui prévoit annonce justement la Canne à Parade. Voilà, je sais pas si tu as d'autres infos.
Non, en fait, j'avais tout dit tout à l'heure. C'était, il y avait que les 32,8 ans qui m'intéressaient et je l'avais annoncé. Donc, c'est l'âge moyen du consommateur en France.
Voilà.
Voilà. Donc, nous, on est dans les seniors, mais bon, c'est pas grave. On n'a pas su se renouveler.
D'accord. Musique maintenant ou on dresse un petit hommage donc à Valère Rogissart. Tu me laisses le faire.
Je te laisse l'hommage puis après on partira sur ma plante de Billy the Kick.
D'accord.
Donc je pense que c'est pas quelque chose qui le gênera.
Non. Je pense pas. Donc on a appris il y a quelques semaines. Hein, c'est pas arrivé la semaine dernière, mais voilà, il y a quelques semaines. Valère Rogissart, donc qui est l'un des acteurs pionniers, fondateurs, piliers de la réduction des risques, qui a démarré voilà à la fin des années 80, et donc Valère Rogissart nous a quitté il y a quelques semaines, et toute la réduction des risques en France est en peine, il faut vraiment le dire. C'est vraiment une personne que personne connaît hein, quasiment. À part vraiment un petit cercle de militants et d'acteurs
tout à fait, ouais, qui ont participé. Et là, c'est Anne Coppel donc, qui fait une petite tribune dans Libération.
Voilà, Anne Coppel qui a été une de ses camarades de lutte. Et donc, on va rendre hommage. Je vais vous lire cet article, cet hommage, parce que vous allez voir qu'on va apprendre plein de choses hyper intéressantes et dont on parle régulièrement, en fait, toutes les semaines dans Cannabis Circus. Ça va vous rappeler certainement des choses. Voilà, donc c'est le cœur lourd, la gorge serrée pour nous tous hein, que Valère Rogissart a incarné une réduction des risques solidaire semblable à la fois joyeuse et rigoureuse qui s'est imposée comme une évidence parce que c'est ce qu'il fallait faire. La réduction des risques ou RDR, Valère était tombé dedans avant d'avoir les mots pour le dire en 1987 lorsqu'il a découvert la brochure d'aide fixe et propre. C'était alors la seule information destinée aux usagers de drogue. Daniel Defer, président de AIDE, l'avait conçu dès 1985 et il avait confié sa réalisation à des garçons qui travaillaient dans la pub et qui avaient l'expérience des drogues. Une toute première action mise en œuvre selon les principes de l'autosupport. Rien pour nous, sans nous. Pour Valère, cela a été une révélation et il est allé immédiatement en informer ses copains de Charleville-Mézières dans les Ardennes. En 87, donner accès aux seringues stériles n'avait rien d'une évidence, comme il le rappelle dans une vidéo qu'il a tournée bien plus tard, en 2022. Le sida, disait-il, c'était un tabou, mais avec les toxicomanes en plus, alors là, ça va plus du tout. Il était déjà malade lors de cette vidéo, mais il était resté pareil à lui-même comme celui que j'avais rencontré en 1987, alors qu'il rédigeait son mémoire de fin d'études d'éducateur sur les malades du VIH, hébergé à l'association Apart en Seine-Saint-Denis. Je ne me souviens pas de ce qu'on s'est dit, mais je me souviens de ce drôle de petit gars aux yeux malicieux qui aimait la rigolade, mais qui avait l'esprit clair et les pieds sur terre. Ed a été sa maison mère. Il s'est senti chez lui, l'un des seuls hétéros, ceux qui le faisaient sourire et qui ne l'a pas empêché de trouver sa place parce qu'il partageait l'essentiel, les principes qui ont fondé l'association et d'abord que la lutte contre le sida devait reposer sur les personnes concernées. Pour lui, c'était ses copains, les tox, comme on disait à l'époque, et aussi leurs proches, leur entourage, leurs soignants, du moins ceux qui étaient à leur côté, et il n'y en avait pas des masses en 1987. La cure de désintoxication était alors la seule réponse officielle, et la plupart des soignants étaient persuadés que les toxicomanes devaient d'abord se sevrer pour se responsabiliser, si bien qu'il ne servait à rien de donner accès aux seringues stériles, pensait-il. Fondamentalement éducateur, le métier qu'il avait choisi, Valère ne jugeait pas, il cherchait à convaincre, il rappelait sans relâche le principe de l'alliance thérapeutique et l'engagement du soignant aux côtés de son patient dans la logique du counseling que AIDE a introduit en France. Autre principe qui lui a servi de fil directeur, la lutte devait être collective. C'est ainsi qu'avec Arnaud Marty-Lavozel, président de AIDE, Valère a été à l'origine de la première réunion de limiter la casse. En mars 93, on était dans la panade, la guerre à la drogue faisait rage. 1993 a d'ailleurs été l'année la plus meurtrière pour les usagers de drogue. Six mois avant, en octobre 1992, on avait espéré que le gouvernement socialiste allait adopter le plan Kouchner avec des premières mesures face au sida pour les usagers de drogue. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La guerre à la drogue l'a emporté avec Paul Quillès, ministre de l'Intérieur, et a priori, la même politique allait être poursuivie avec Charles Pasqua à ce même ministère. Il fallait se faire entendre, et c'est ce que Arnaud et Valère nous ont proposé de faire avec ASUD, Association d'autosupport des usagers de drogue créée en 92, et avec les soignants que je connaissais engagés dans les actions de terrain, programmes d'échange de seringues ou traitements de substitution pour l'accès aux soins. Limiter la casse a été le creuset de nos actions. Nous y avons appris à nouer des alliances entre usagers, soignants, militants, ce qui s'est fait dans une joyeuse anarchie. Enfin, chacun pouvait dire à haute voix ce qu'il pensait. Le tabou qui enfermait les usagers de drogue dans le silence s'ébranlait. Un bouleversement qui allait changer notre vie. Je me souviens de notre première manifestation publique à Stalingrad avec les 7 bus de réduction des risques existants en décembre 1993 pour dénoncer la répression et faire reconnaître le droit des usagers à protéger leur santé, ce qui à cette époque était tout simplement le droit de vivre. Il faisait très froid ce jour-là, mais on était euphorique, on existait et c'était déjà un miracle. Il y a une photo que ASUD a publiée, on voit Valère à micro à la main, tout fringant, lumineux. Cette euphorie nous a porté toutes les années suivantes. On était une drôle de cohorte, des gens de terrain sans expérience militante antérieure, du moins pour ce qui est des drogues, au contraire des homos, plutôt anards, le plus souvent sans goût pour le pouvoir, sans communicants. Et pourtant, nous avons été à l'origine d'une sorte de mouvement social, un rejeton de la lutte contre le sida ignoré des médias, mais qui s'est propagé underground sur le territoire national. Entre 93 et 94, les initiatives se sont multipliées dans la plupart des grandes villes avec la même stratégie que limiter la casse, en regroupant les bonnes volontés avec le soutien précieux de AIDE et de Médecins du Monde, association nationale. En 94, il y avait ainsi 14 ASUD en France et des réseaux se sont constitués pour l'accès aux soins. Lorsque Simone Veil, alors ministre de la Santé, a donné un cadre expérimental à la RDR, elle s'est appuyée sur ces initiatives qui faisaient largement appel au bénévolat. On ne le sait pas, mais le dispositif que Simone Veil a mis en place a sauvé des dizaines de milliers de vies, comme le démontre l'évaluation nationale de 94 à 99. Les overdoses sur la voie publique ont été réduites de 80% et le nombre de contaminations au VIH dû à l'injection a connu une chute drastique. Des résultats ignorés du public, des médias et d'abord de la classe politique n'a rien voulu changer de la lutte contre la drogue. À cette époque, Valère a été l'envoyé spécial de AIDE pour ce qui est des usagers sur tout le territoire. Arnaud lui faisait entièrement confiance, Arnaud, président de AIDE. Valère comprenait vite ce qui se passait, dénouait des conflits si nécessaire, apportait son soutien à celles et ceux qui s'engageaient dans les accueils d'usagers qui n'avaient pas renoncé à consommer des drogues, et même avec la toute première expérimentation d'une salle de consommation initiée par ASUD Montpellier en 1994. Les salles de consommation, il en parle dans cette vidéo de 2022, il déplore que deux seulement existent en France, ce qui illustre les freins auxquels la réduction des risques continue de s'affronter. Il en faudrait pourtant dans tous les lieux de rencontre et les accueils d'usagers. Nous sommes toujours en pleine guerre à la drogue. Pourtant, les preuves sont là. On sait désormais ce qu'il faudrait faire et des États de plus en plus nombreux s'engagent dans la recherche d'alternatives à la prohibition. Mais les Français s'obstinent dans la mauvaise direction. Ton micro est éteint.
Ah oui, ce que je disais, à Lyon, on n'en a toujours pas des salles de consommation à moindre risque.
C'est à l'étude. Dommage, quoi. C'est à l'étude.
Mais ouais, il faudrait que ça aille plus vite, c'est bien.
Voilà, Valère avait espéré qu'en faisant la preuve qu'il était possible de faire autrement, la RDR allait contribuer à une autre politique des drogues. C'est ce que nous avions tous espéré avec la reconnaissance de la RDR entre 1999 et 2002, mais dès le changement de gouvernement, la réduction des risques a été remise en cause, elle a été sauvée in extremis par ses bons résultats et a ainsi obtenu un statut légal. Alors en 2006, hein, c'est pas en 2004, mais bon, c'est pas grave. Mais elle a d'abord été limitée aux risques infectieux dans une logique purement médicale. Les usages festifs ont d'abord été exclus de cette nouvelle politique de santé. Or, justement, le milieu festif est à l'origine de pratiques innovantes à la rencontre des usagers dans les free parties, les technivals, en offrant sur le terrain une information sur la réduction des risques selon les produits, des espaces d'accueil et d'accompagnement au bad trip, ou encore avec le testing proposé sur place pour éviter des empoisonnements. Valère y a contribué avec l'émission Rêve de Médecins du Monde, dont il a été le responsable au cours des années 2000. C'était là un engagement bénévole auprès d'usages festifs, ce que lui-même avait connu avec ses copains de Charleville. Il ne se définissait pas comme usager de drogue, mais il reconnaissait que le berger sent le mouton, une façon de faire taire les soupçons qui pouvaient disqualifier son action. Ce rôle de berger, il l'a assumé avec la création du centre d'accueil et de réduction des risques des usagers de drogue, le CARUD, Sida Parole, à Colombes, en banlieue parisienne, parce que là était l'urgence. Valère a été un pilier de la réduction des risques, il a poursuivi la lutte tout au long des 30 dernières années et l'histoire n'est pas finie. On n'a pas réussi à mettre fin à la guerre à la drogue, mais heureusement d'autres prennent la relève. On était nombreux à l'accompagner jusqu'au dernier moment, ce vendredi 19 avril, au cimetière de Saint-Denis. Des vieux de la vieille, mais aussi des plus jeunes, venus d'un peu partout, de Charleville à Marseille, avec le bus 31-32. On voulait tous et toutes le remercier. Voilà. Je pense que c'était important de lire cet article et de lui rendre hommage parce que, encore une fois, voilà, ça fait partie de ces personnes qui ont contribué à transformer la santé publique en France et qui sont complètement inconnues. Alors déjà, lui, voilà, personne ne le connaît.
Mais on revoit plein de choses. On entend des choses qu'on a vues ou entendues à un moment ou à un autre. Parce que ça retrace 30 ans ou 40 ans même de lutte.
Bah, 30.
Contre le sida, contre le moralisme bien pensant. Voilà. Non, c'est très très intéressant. Moi, je remercie le.
Voilà. Merci Anne Coppel.
Petit hommage d'Anne Coppel dans l'IB.
Pour cet hommage et oui, pour terminer, oui. Beaucoup de gens aujourd'hui qui peut-être nous écoutent se disent bon, la réduction des risques, oui. Voilà, il n'aurait pas été là, je pense que je sais pas où on en serait aujourd'hui à ce niveau-là. Et c'est important quand même, voilà, ce qu'il a mis en place, Simone Veil s'est appuyée dessus pour généraliser en fait les actions mises en place de manière un peu libertaire et enfin, plutôt anarchique en fait. Mais c'était bien vu, bien pensé, et en tout cas, voilà, grâce à eux, plusieurs milliers, dizaines de milliers de vies ont pu être sauvées. Donc voilà, merci Valère et bon voyage pour la suite. Voilà, allez, musique.
Et pour rejoindre les festivités et tout ce qu'il aimait bien avec la marche pour le cannabis, avec Billy the Kick, Ma Plante.
C'est une survivante.
Non, tu mets.
Je suis pas. C'était ma plante Belizokik. Ça y est, j'y suis.
Si tu mets ton
excusez-moi,
micro, ça va mieux.
Il y a eu du blanc, il y a eu des trucs. C'était pas bien.
On a cru que tu jouais du saxophone.
Je suis pas radiophonique. Je suis pas au top. Ah, ça va pas. Allez, on continue. N'empêche que on arrive à.
Alors, on va parler un peu de l'Allemagne. Alors, on va pas revenir sur cet article de la semaine dernière, mais on va vous parler un peu
des défis de la mise en œuvre. Non, pas besoin. C'est compliqué, mais ils vont y arriver. Allez. On était sur l'Europe, c'est ça?
Voilà, donc c'est
le géant endormi.
Le géant endormi de la réforme mondiale du cannabis s'est tenu il y a très peu de temps, la semaine dernière en fait, à Berlin. Non, c'est cette semaine que va se tenir à Berlin, voilà, je me trompe de temporalité. L'occasion pour l'ICBC. Alors l'ICBC, c'est quoi donc?
L'Institut.
Oui. Et encore?
International historique, non, c'est pas ça. L'ICBC, je sais pas.
T'es pas dans le bon article, bravo.
Si, si, j'y suis.
Bon, c'est pas grave. Voilà, on voulait voir un petit peu ce qui se passait dans cet article au niveau d'une mise en perspective entre l'Allemagne et l'Europe, en fait. Puisque, comme vous le savez, depuis le 1er avril, le gouvernement allemand a, on va dire, légalisé dans une certaine mesure. D'ailleurs, là, dans cet article, c'est bien parce qu'on nous précise que les clubs ne vont pas être des clubs sociaux. Hein. Ça va être des associations de culture, en fait. Donc, alors, c'est un petit, une petite nuance, mais c'en est une quand même. Alors il faut savoir quand même que au niveau des restrictions actuelles, les clubs en fait sont limités à 1 pour 6000 résidents avec un maximum de 500 membres pour chacun. Il y a des experts qui eux s'attendent carrément à voir s'ouvrir jusqu'à 3000 associations officielles au cours des prochaines années, mais il y a des initiés, alors certains initiés, parce qu'il y a des clubs d'initiés, hein, c'est comme partout, certains initiés du secteur donc suggèrent qu'il pourrait même y en avoir beaucoup plus et potentiellement même jusqu'à 10 000, hein, qui seraient des clubs non officiels ou qui seraient plus axés sur l'activisme et qui donc vont se créer pour contourner les restrictions et les procédures administratives du gouvernement. Autre pilier de la mise en œuvre de la légalisation, eh bien, c'est cette possible commercialisation, enfin, la mise en place de réseaux de distribution au détail, hein. Sauf que, ça, on sait bien que c'est un truc compliqué. Apparemment, il y a une discussion, en fait, entre l'Union européenne et les autorités allemandes. Et alors là, apparemment, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a quand même des sources suffisamment bien informées, semble-t-il, qui ont indiqué aux journalistes de Newsweek qui font cet article que il faudrait quand même, pour que ça change au niveau européen, il faudrait qu'il y ait quand même au moins 7 pays qui puissent convaincre l'Union européenne en fait d'abolir, je dirais, la prohibition européenne, quoi, en fait. Voilà. Donc c'est pas gagné du tout. Il faut qu'il y ait quand même une forte pression. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y a 7 pays qui feraient pression pour une forme de légalisation, enfin, ou qui pourraient convaincre l'Union européenne de laisser les États mettre en place un système de distribution. Ce n'est pas du tout gagné. Mais bon, l'Allemagne serait quand même le pays le plus influent vis-à-vis des autorités européennes. Il y a quand même 4 millions de consommateurs, un marché potentiel de 7,8 milliards d'euros. Donc là, on est plutôt sur des données carrément économiques, hein, c'est sûr. Un économiste est même cité, l'économiste en chef de Whitney Economics, Beau Whitney, s'attend à une réponse de l'ONU et ou de l'Union européenne. Donc bon, apparemment, il va y avoir des réponses. Et comme un certain nombre d'autres pays voisins envisagent aussi de modifier leur législation d'une manière ou d'une autre, il se pourrait que l'Europe... deviennent donc le géant endormi de la réforme mondiale du cannabis. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ça va se faire, mais qu'il dort un peu, quoi. Donc en fait, on devrait être optimiste, finalement. Ça va être lent, il faut qu'il se réveille, mais moi, je le comprends quand même comme ça.
Après, l'ICBC, c'est l'International Cannabis Business Conference. Voilà. Donc ils en ont fait un petit peu de partout.
C'est sûr que c'est pour ça que c'est économique, on va dire.
Voilà. Et puis qu'ils sont très optimistes parce qu'il faut faire venir les investisseurs. Donc ils font pas des conférences pour le plaisir, mais ils ont un intérêt, c'est faire venir les investisseurs et leur les appâter. Donc forcément, pour eux, toute la vie est rose.
Oui, si tu veux. Après, dans quelle mesure ces acteurs de l'ICBC peuvent faire pencher la balance ? Non ? Je sais pas, parce que c'est un peu comme ça aussi que ça se passe des fois dans le business. Quoi.
Mais en fait, ça va pencher la balance. Moi, le problème actuellement, c'est légaliser, mais comment ?
Oui, oui, bien sûr.
Moi, mon truc, si c'est pour avoir des grosses industries,
oui, du McDo, du cannabis, c'est pas une bonne idée.
Du cannabis qui est fait dans les trucs qu'on voit là, mais il y a des reportages qu'on voit de temps en temps où on voit le cannabis qui est cultivé sous serre, quoi, même pas sous serre, quoi, sous lampe.
Oui, voilà, oui.
Dans des gros buildings, dans des gros locaux.
C'est ce que montre le reportage de Kassovitz au Canada.
Voilà, tout à fait. Dans ce cadre-là, tout à fait, c'est ça. Voilà, est-ce que c'est ça que je veux ou est-ce que je veux des petites herbes poussées dehors qui sont pas très fortes, mais qui sont sympas, quoi.
Voilà, qui poussent donc à la lumière du soleil, quoi.
Voilà.
Voilà, donc c'est
juste savoir ce qu'on veut. Après c'est intéressant des petites herbes qui boostent un petit peu la tête. Mais bon, faut voir quoi.
Faut
avoir le choix.
Oui, après je sais pas.
Et la connaissance de ce qu'on prend. Voilà, bon bref.
Enfin bon, en tout cas pour eux, je sais pas si tout va être rose, mais en tout cas bah ils sont dans les starting blocks tous ces acteurs forcément parce que si effectivement les choses se décoincent en Allemagne, je pense que dans leur esprit, les choses vont se décoincer partout en Europe.
Bah ouais, mais si c'est pour le décoincer sur des multinationales, ça m'intéresse pas. Moi, quelque part, c'est pas mon truc. C'est pas mon voilà.
Non mais on comprend bien, mais je veux dire, je pense qu'ils nous écoutent pas.
Allez, on continue avec le Maroc.
Circus, Jacques, ces gens-là apparemment. Voilà. Alors oui, on va continuer avec le Maroc parce que là, pour le coup, le Maroc, c'est pas un endroit apparemment où ils font pousser ça dans des usines sous lampe. Il m'a pas entendu. C'est pas grave.
Ouais. Au Maroc, c'est naturel, c'est dehors.
Voilà. Donc, bon. Alors, au Maroc, ils ont créé une agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, l'ANRAC. Et l'ANRAC a récemment publié ses données qui reflètent donc ses activités pour l'année 2023. Donc, en 2023, la première récolte de cannabis légal s'est élevée à un total de 294 tonnes. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est probablement qu'un infime pourcentage de tout ce qui est produit au Maroc. Alors, je ne sais pas si l'ANRAC aura sous son autorité l'ensemble de toutes les tonnes produites au Maroc prochainement. Enfin, en tout cas, ils se sont dotés d'une administration et d'un système de production légal. Ce qu'il faut saluer. Moi, je pense qu'on peut vraiment le saluer quand on voit, nous, ce qu'on n'est pas capable de faire. Donc, dans les régions du nord du Maroc, ça se passe où ? À Taounat, à Chefchaouen et à Al Hoceima. Eh bien, l'ANRAC a accordé 2737 autorisations à des agriculteurs locaux contre 609 l'année précédente. Les cultures légales, nous dit-on, vont couvrir désormais une superficie totale de 2552 hectares, ce qui est quand même pratiquement 10 fois plus que l'année d'avant, qui était 286.
Ouais, mais ce qui est 100 fois moins que ce qui est cultivé de façon illégale.
100 fois moins.
Ouais, je pense que c'est à peu près ça, si je ne me trompe pas.
D'accord.
Je pense qu'on était sur... Non, 300 fois moins. On était sur 72 000. Et là, on est 2005, donc on est... c'est ça, 30 fois plus.
D'accord. Mais ce que je te disais tout à l'heure, je posais la question...
Mais c'est bien, c'est un bon début, il faut... C'est bien.
Et donc, c'est ce que je te posais comme question tout à l'heure. Est-ce que l'ANRAC, à un moment, aura la possibilité d'avoir sous son contrôle 100% de la culture marocaine ? Parce que là, c'est que le début. Enfin, en tout cas, il passe quand même de...
Dans 20 ans, 30 ans, pourquoi pas, je sais pas, ça dépendra. Il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer là-dessus.
Enfin bon, en un an, ils ont quand même multiplié par 10. l'ensemble des cultures légales.
Puis après contrôler, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Mais oui, voilà. Mais bon, c'est bien. C'est bien ce qui se passe au Maroc. Allez, on va continuer quand même parce qu'on a encore pas mal de petits sujets, il me semble.
Bah attends, j'ai pas fini.
Vite fait,
voilà, quand même, ils ont accordé 168 licences à 61 opérateurs différents. Ça concerne 16 coopératives, 36 sociétés et 7 personnes physiques. Bon, voilà. 42 produits du cannabis ont aussi été fabriqués à partir de la production légale, dont 11 produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et 31 produits de compléments alimentaires. Moi, je trouve ça chouette, quoi. Ils se diversifient et tout. Putain, c'est pas mal, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Ah, moi, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Merci de m'aider. Voilà. Bon, c'est l'essentiel. Allez, on continue. Vous pourrez retrouver cet article comme tous les autres sur la page Facebook du Cirque Lyon. De toute façon, tous ces articles sont accessibles en ligne.
Voilà, donc ça, c'était l'usage licite du cannabis au Maroc ouais. Avec l'ANRAC, l'Agence
nationale relative aux de régulation des activités relatives au cannabis. Voilà.
Ouais, c'est cool. Bon, on va passer en France, en tout cas. Donc
non,
cool.
On va en Belgique. On va en Belgique.
Non, là, on était au Maroc.
Oui, bon, on va
et
en Belgique.
Maintenant, on va en Belgique, voilà. Et donc, on est vers une révision de la politique belge sur les drogues. Alors là aussi, ils sont à la ramasse quand même, les Belges. Hein, parce qu'ils n'ont rien changé depuis le début du XXe siècle, si je ne me trompe pas. Hein.
Oui, enfin, nous, on a changé pour voir ce qu'on a fait. C'est pas forcément beaucoup mieux.
Ah, ça, c'est sûr.
Donc,
c'est plutôt moins bien, même. Hein.
Donc, effectivement, ils ont une loi
Répression.
Eux, ils ont une loi qui date de 1921 en Belgique. Et un rapport a été publié il n'y a pas très longtemps. Un rapport du Sénat belge qui met en lumière justement les tendances mondiales sur la question de la dépénalisation ou de la légalisation dans un pays, dans différents pays, et qui met en lumière aussi l'échec crucial de la prohibition, y compris en Belgique, qui toucherait la consommation de cannabis, qui toucherait environ un quart de la population, et dont environ 8% représenterait des schémas de consommation problématiques. Donc, des données qui soulignent l'urgence de réviser les politiques actuelles pour répondre efficacement aux préoccupations de santé publique et sociétale liées à cette consommation. Alors, c'est un rapport qui ne prône pas explicitement la dépénalisation, hein, mais il appelle quand même à l'instauration d'un nouveau cadre juridique visant à clarifier la loi et à rendre son application plus prévisible pour tous les citoyens. Une recommandation phare. Alors bon, on est toujours dans le soin, plus. Bon, tant mieux à la limite. Hein. Ça serait d'offrir des conseils psychomédico-sociaux gratuits aux consommateurs de cannabis non perturbateurs de l'ordre public. Ça fait beaucoup de monde, parce que non perturbateurs de l'ordre public, enfin bon, plutôt que des sanctions pénales ou administratives, hein, c'est un peu un modèle un peu à la portugaise, tel qu'il est, tel qu'on le comprend ici. Mais
Je sais pas que je comprends, mais en tout cas ce que j'avais noté là-dedans, c'est que dans ce rapport, il mettait que la prévalence de la consommation était quand même d'un quart de la population. Donc 25% de la population consommait, et donc 8% de cette population avec une consommation problématique. Donc 8% de 25%, ça fait même pas 2% du coup de
D'accord.
la population totale. Voilà, c'était juste une petite remarque dans ce que j'avais souligné là-dedans.
Voilà, donc en tout cas, en Belgique aussi, et tant mieux parce que c'est un pays qui était assez à la pointe hein, au début des années 2000, hein, qui était même prêt, pas dire à dépénaliser, mais qui était quand même assez en avance, et qui est beaucoup revenu en arrière, je dirais un peu comme la Suisse. Bon, la Suisse est bien repartie de l'avant, et la Belgique, ça évolue plus ou moins vite, même si on sait que globalement, on en a parlé plusieurs fois, plusieurs membres du Parti Socialiste Belge s'étaient exprimés en faveur d'une sortie de la prohibition. Donc,
mais il me semble que c'est plus cool en Belgique que chez nous, mais bon. Allez, on verra bien. Un petit peu de musique avant d'aller passer l'Atlantique.
Allez.
Tu gères avec Billy the Kick.
Ah, décidément, aujourd'hui, c'est ton truc.
Sensemilia. Soudain le sol se dérobe, la fumée
Voilà, donc Billy the Kick, Sensimilia. Eh bien, on va traverser l'Atlantique et on va aller faire un petit tour au Manitoba. Le Manitoba, cette province, cet état du Canada, qui a fait part de son intention de lever l'interdiction de cultiver du cannabis à domicile. Donc le Manitoba qui s'apprêterait à autoriser l'autoproduction, finalement. Et si, effectivement, le Manitoba prenait cette décision, eh bien, il ne resterait plus que le Québec qui resterait finalement la seule province qui interdit aux particuliers de cultiver du cannabis pour leur usage personnel. Voilà, bon, on n'est pas étonné hein, que le Québec resterait le dernier, parce que, comme tu disais tout à l'heure, le Québec, c'est un peu la France quand même. C'est l'État où il y a eu les plus vives résistances par rapport au projet de légalisation en 2018. De tout le Canada, ça a été vraiment très très prononcé dans cette province. Alors que globalement, le reste des provinces plutôt anglo-saxonnes était beaucoup plus pro-légalisation que Québec.
Mais sinon, sans s'apesantir sur ces malheurs francophones ou francophiles ou je sais pas comment peut-on dire. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que la légalisation au Canada, au bout de quelques années, continue à évoluer et fait que certaines provinces qui étaient rétives rentrent dans l'évolution et trouvent que c'est bien et que l'évolution leur montre que c'est bien.
Bon, si tu veux.
Moi, c'est comme ça, il faut le voir de façon positive quand même les choses.
Oui, enfin après, en tout cas, ce qui se passe là, c'est que si ça évolue, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui font pression pour que ça évolue. C'est ce que dit aussi le texte.
Oui, mais il y a des pressions parce que si c'était négatif, il y aurait pas de pression. Il y a des pressions parce que c'est positif.
Il y aurait pu avoir des pressions et puis on aurait pu leur dire non, finalement c'est ce que vous, vos pressions et tout, on n'en veut pas et puis ça va pas changer.
Bon, d'accord.
Alors
allez.
Que là, finalement, on est.
Allez. T'as encore des choses à rajouter sur le Canada, c'est bon ?
Non, j'ai pas fini, mais c'est bon.
Vas-y,
on va parler un peu quand même.
Conclue sur le Canada.
Disons que moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est assez démocratique finalement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui font entendre leur voix, comme Jesse Lavoie, parce que là, il est cité, qui a justement mené une campagne active contre l'interdiction de l'autoculture. Et il a intenté une action en justice contre la province à ce sujet. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais de pression, c'est qu'il y a des citoyens qui s'organisent et qui attaquent là en justice l'État et qui finalement pourraient obtenir gain de cause. Et si c'était le cas, Monsieur Lavoie retirerait son action en fait en justice. Voilà. Puisque actuellement au Manitoba, quand même, on s'expose à des sanctions qui peuvent être importantes, des amendes qui peuvent aller jusqu'à plus de 2 500 $ et des peines d'emprisonnement potentielles. Donc voilà pourquoi aussi il y en a qui se bagarrent et qui sont prêts à.
Mais ils ont raison, il faut.
Il faut le faire, voilà. Donc voilà, c'est tout.
Donc, légalisation.
Bravo au Manitoba en tout cas s'ils le font. Il ne restera plus que le Québec, voilà.
Voilà. Et après, toutes les provinces du Canada auront plié.
Peut-être, parce que bon...
Mais ça va venir.
Oui, pourquoi pas.
Peut-être même avant la France.
Oui, ça, c'est pas dur, par contre, ça, c'est sûr.
Allez, Génération Z.
Voilà, alors ça, c'est plutôt un article.
Elle consomme moins d'alcool, préfère le cannabis et les boissons non alcoolisées.
Oui, enfin, en tout cas, aux États-Unis, parce que ça, c'est un article qui nous vient des États-Unis.
Ouais, c'est ce qui va arriver en France dans 5 ans, alors.
Ouais, ou dans 20, ouais. Alors, selon un article de Billboard, il faut être lucide, malheureusement. En fait, ils ont constaté qu'après la pandémie, une partie des consommateurs, des gens qui sortent en soirée, tout ça, avaient plutôt tendance à délaisser l'alcool, puisque les ventes d'alcool ont chuté de 25%, notamment dans un club à Tucson, en Arizona. Et notamment lors des événements ciblant la génération Z. Alors la génération Z, c'est quoi ? C'est une population qui serait née plutôt après 95, donc entre la fin des années 90 et la fin des années 2000, et qui représente 30% de la population dans le monde et regroupe aussi bien les adolescents que les jeunes actifs de moins de 25 ans. Voilà, ce serait ça la génération
c'est
Z.
C'est pas nous, quoi.
C'est pas nous, on est des boomers, nous. On est des vieux, on est des seniors. Aïe, c'est horrible. Alors,
ça me fait peur.
Enfin bon, allez. Si à notre âge vous avez encore la pêche comme nous et l'envie de vous marrer, bah écoutez, ce sera déjà pas si mal. Voilà. Alors, l'industrie des boissons alcoolisées, elle essaie de changer aussi de stratégie, puisque ils ont tendance à moins vouloir consommer d'alcool.
À plus prendre de cannabis.
En tout cas, oui, c'est les jeunes, en tout cas, semblent apprécier le cannabis, voilà.
Mais peut-être moins fumer, c'est ça qui est compliqué. Parce qu'il y a plein de choses qui sont pas dans cet article, mais.
Oui, enfin après, ça ne veut pas dire que
c'est des gens qui prennent des boissons non alcoolisées. Ils font gaffe à ce qu'ils prennent et à comment ils le prennent. Et c'est important. Et c'est important parce que tout corps fumé est mauvais pour la santé. On le rappelle et on le redit.
Oui, enfin peut-être qu'ils fument pas. Peut-être que justement, ils vaporisent.
Voilà. Et ça, c'est le mieux. C'est le must. Parce qu'on le rappelle dans le débat entre est-ce que fumer du cannabis ou fumer du cannabis et du tabac, est-ce que lequel est le plus mauvais ? J'avance un petit peu sur le sujet futur. Bref, en tout cas, l'un et l'autre sont tout aussi mauvais. Fumer est mauvais.
Voilà. Donc, vaporiser, c'est bien meilleur.
C'est mieux.
Bien mieux, voilà.
Manger, c'est parfait.
Voilà.
Ou pas plus mal.
Bien, alors...
Il doit aussi y avoir des effets néfastes.
Bien, alors on continue, vous avez compris un peu notre propos sur cette histoire de génération Z qui serait plutôt, aux États-Unis en tout cas, plus prompte à préférer le cannabis à l'alcool et à sortir même dans des endroits où on consommerait même moins, beaucoup beaucoup moins d'alcool ou pas d'alcool, voilà.
Ouais, faire attention à ce qu'on consomme, comment on le consomme.
Bien, allez, on continue.
Allez, la conclusion, la génération Z redéfinit les normes de consommation en optant pour le cannabis et les boissons non alcoolisées plutôt que pour l'alcool. Cette évolution témoigne d'un changement culturel profond alimenté par une prise de conscience croissante de la santé mentale et une plus grande ouverture à l'écart du cannabis. Les salons de consommation du cannabis sont sur le point de devenir des lieux incontournables pour les jeunes adultes en quête d'une expérience sociale différente, reflétant ainsi les préférences changeantes de la société moderne.
T'es habité par Antonin Artaud ce soir ou non?
Je sais pas, c'est ce qu'il y avait écrit dans le texte. J'ai pas dérapé. La génération Z concerne d'abord une population née après 1995.
Oui, c'est ce que on l'a déjà dit.
On l'a déjà dit tout à l'heure. 30% de la population. Tu l'avais bien rappelé, tout à fait. Merci. Excuse-moi, mais moi j'ai du mal à savoir ce que c'est parce que je suis encore à l'Y, à la X, à la je sais plus où on en est. Bref.
Ça pourra pas être
dans le réel. Là.
Ça pourrait pas être plus que Z. Hein, après, il faudrait qu'ils changent d'alphabet sinon.
Allez, on va voir vite fait ce qui se passe au Paraguay.
Oui, au Paraguay où on discute d'une réglementation du cannabis tant médical qu'industriel et récréatif.
Et les changements sont à venir.
Peut-être. En tout cas, c'est quelque chose qui les anime. Apparemment, le législateur qui s'appelle Dionisio Amaria, qui a été le rapporteur de la commission pour la prévention, la lutte contre le trafic de drogue et les délits connexes, voilà. Donc ce monsieur qui a été rapporteur de cette commission, il a rappelé la nécessité de revoir la législation actuelle et son impact sur le pays. Pour ce monsieur, le Paraguay pourrait ouvrir la voie à la production de cannabis en Amérique du Sud. Et suite à cette réunion, le pays commence à réfléchir à la manière de le faire, hein, de faire du cannabis un moteur de développement économique. Le président de la Chambre paraguayenne du chanvre industriel a également participé au débat et il a indiqué que depuis 2019, l'institution a encouragé la culture de cannabis industriel non psychoactif dans 14 départements pour favoriser la croissance économique des communautés rurales et indigènes. Jacques, qu'est-ce que tu fais ?
Insupportable.
Non, mais il y a de la musique derrière, là. Voilà. Non, mais c'est... Bon. Voilà, donc merci de m'avoir coupé, hein, c'est sympa. Le Paraguay, d'après ce monsieur, donc, est prêt à faire le grand pas pour pouvoir utiliser le THC de manière psychoactive, mais avec les contrôles appropriés. Donc voilà, il n'y a pas que l'industriel. Ce qu'il a souligné aussi, c'est que le pays avait une grande opportunité de conquérir le leadership du cannabis légal dans la région et de devenir une puissance industrielle. mais ils n'oublient pas l'aspect scientifique avec ce docteur Hernán Codaz, qui est cité là, un membre de la Société Scientifique du Paraguay, de l'Observatoire Paraguayen du Cannabis. Non, mais même nous, on n'a pas des trucs comme ça en France. On n'a pas des observatoires du français du cannabis. Eux, ils en ont un. C'est vraiment... voilà, donc ce monsieur a souligné que le cannabis n'est pas aussi addictif que d'autres drogues plus fortes.
On en a en France, on a l'OFDT. On a même travaillé avec eux.
Ouais, c'est pas la même chose. Donc voilà, tout ce beau monde pense pouvoir tirer parti d'une production légale. Voilà, donc bon, en gros, c'est à peu près donc ça qu'il faut retenir, c'est qu'il serait quand même plutôt prompt à changer de fusil d'épaule, à mettre en place une autre politique. Bon, peut-être serait bien d'aller voir qu'ils aillent voir leurs voisins uruguayens pour voir ce qu'ils ont fait. Ils sont juste de l'autre côté de la frontière. Donc voilà, on va suivre aussi ce qui se passe au Paraguay. Allez, maintenant, on va s'intéresser à cet article sur pourquoi les Européens mélangent du cannabis au tabac.
Ah ouais, ça c'est une question fondamentale.
Voilà, alors donc là on nous parle effectivement de tout ça, c'est-à-dire c'est un article du Cirque. Pourquoi les... Européens mélangent du cannabis au tabac. Pourquoi tu mets de la musique comme ça
Pour s'embêter
Ouais, non, mais il y a des gens qui écoutent. Enfin, c'est un peu lourd.
Ah, super. Allez, pourquoi les Européens mélangent le cannabis au tabac? Parce que ça se fait pas, hein. Allez, les Américains, c'est de l'herbe pure.
Ouais, ils sont plutôt comme ça, les.
Il y a l'herbe pure, avec peut-être un blunt. Mais pas forcément, ça peut être que des feuilles et de l'herbe pure.
Donc, pourquoi est-ce qu'on mélange donc ce tabac avec du cannabis et d'où ça vient alors
bah,
c'est...
Bah parce avant, c'était trop sec l'herbe. Alors, il fallait mettre des trucs pour que ça soit plus huileux, plus... Et que ça se consomme mieux, quoi. Tu vois, c'est les deux premiers arguments, hein. Les deux, c'est trop sec et ça se consomme mieux avec du tabac.
D'accord, bien. Alors,
l'important, c'est le troisième. C'est celui-là qui m'intéresse.
Bon, bah vas-y, je te laisse. Hein.
Bah ouais, non, c'est... Certains préfèrent l'effet combiné des deux drogues, signalant une défonce différente et parfois plus intense. Mais tout est là. Tout est là. Ouais, c'est une question fondamentale dans la réflexion sur l'addiction au tabac, l'addiction au cannabis. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien? Pourquoi on fume? Pourquoi on prend d'autres choses? Pourquoi quand on prend des nicopas, si on mange, on a envie de la nicopas d'autant plus? Parce que la nicopas amène avec la nicotine... Même si elle n'est pas combinée et fumée en même temps, c'est des choses qui se combinent et qui sont intéressantes. C'est pour ça que c'est fondamental. Voilà. Bref, en tout cas, donc pourquoi mélanger? Donc la première raison, on va les reprendre. Hein. La première raison, c'est mélanger le cannabis au tabac permet de faire durer le stock plus longtemps. C'est la question économique. La deuxième question, c'est que cette combinaison assure une combustion plus régulière, le tabac étant souvent plus sec que le cannabis. Et la troisième raison, c'est les effets. C'est que combiner les deux drogues signale une défonce différente et parfois plus intense. Voilà, c'est les trois raisons et je pense que c'est bien de les reprendre dans l'ordre. De faire le point. Je pense que c'était l'important de cet article. À moins que tu aies d'autres choses à rajouter.
Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'origine historique de cette pratique, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on s'est mis à mélanger du tabac? Alors, c'était plutôt du haschich à l'époque, parce que c'était ce produit-là qui dominait le marché européen, notamment en Angleterre. Ça m'a étonné, puisque...
C'est vrai qu'inhaler l'encens, c'est difficile.
Donc voilà, c'est le haschich qui brûle mal par lui-même. Si on ajoute du tabac pour faciliter, sa combustion. Donc voilà, c'est notamment. Alors Là, il parle du Royaume-Uni. Je pense que ça a très vite traversé la Manche et que c'est vite venu chez nous. Puisque je trouve que en France, on est parmi ceux qui mélangent le plus avec du tabac. Même en ce qui concerne les fleurs. Donc, bon, voilà. C'est pas forcément comme ça partout, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En Amérique du Nord, bon, ça va. Les taux d'utilisation en mélange tabac cannabis, c'est plutôt de 4,4 à 16%. Alors que nous, on est plutôt autour de 90% à peu près. Donc bon, voilà. Alors, est-ce qu'il est temps d'abandonner ? Bonne question en tout cas qui est posée. Donc, compte tenu des risques pour la santé des alternatives plus sûres telles que l'utilisation de vaporisateurs, il est peut-être temps que les Européens réévaluent leurs habitudes de mélanger cannabis et tabac. Voilà. Donc, à suivre. Mais en tout cas, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est pas le cas partout sur Terre. En tout cas, c'est pas le mode de consommation et d'utilisation majoritaire partout. Voilà, voilà. Allez. Il est 22h.
Et là, on vous laisse. Hein, c'est...
On vous laisse avec Chasseur de son.
Qui est derrière nous.
Qui est derrière nous, qui est prêt à faire vibrer vos tympans. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Cannabis Circus. Au revoir.